VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, tout un plaisir de vous retrouver pour une demi-heure d'infos et de décryptage de l'actualité. Jacques Aristide et Anne Albertson à vos côtés en ce vendredi 12 juin 2015. À la une ce matin, au Mali, les députés valident le programme du Premier ministre Modibo Keïta.
C'est décidé, le Nigeria dirigera jusqu'au bout la force régionale contre Boko Haram.
Le fait d'avoir accepté que l'état-major soit quand même à N'Djamena, c'est aussi, à mon avis, faire un clin d'œil, ou en tout cas au Tchad, pour remercier le Tchad quand même est intervenu le premier contre Boko Haram dans la région.
En Côte d'Ivoire, jugé pour meurtre, le commandant Seka Seka, l'ex-chef de la sécurité de Madame Gbagbo, plaide non coupable.
Ici aux États-Unis, un adolescent plaide coupable de soutien à l'organisation terroriste État islamique.
Dans la partie magazine, gros plan sur la reprise des consultations du président Kabila avec les différentes composantes de la population congolaise.
Nous avons dit nous soutenons le dialogue. Nous avons demandé au chef de l'État d'élargir encore sa main pour que les indécis et les hésitants viennent au nom du Congo pour sauver notre pays.
À venir également, comme chaque matin, la Minute Éco et le billet sportif.
Les députés maliens ont donc adopté à une large majorité le programme de gouvernement du Premier ministre Modibo Keïta. Un vote survenu à l'Assemblée nationale aux petites heures du matin ce vendredi. M. Keïta a appelé à la cohésion nationale pour sortir le Mali de la crise en demandant l'implication de tous et à tous les niveaux, rapporte l'AFP. Après de longs débats contradictoires, 116 députés ont voté pour et l'opposition, qui compte en son sein 16 députés, a voté contre. Dans sa déclaration de politique générale lundi, le Premier ministre s'est fixé pour objectif prioritaire la sécurité des personnes et des biens, l'amélioration des conditions de vie et la recherche de la justice. Le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, s'est dit sceptique face à la déclaration de Modibo Keïta, estimant qu'elle contenait des imprécisions.
En République démocratique du Congo, 31 adeptes d'un chef de secte, accusés d'être l'instigateur d'attaques meurtrières fin 2013, ont été condamnés à de lourdes peines pour détention illégale d'armes et rébellion. Compte rendu, Eddie Sango.
Une des personnes qui comparaissait dans ces procès a été acquittée faute de preuves. Les 31 autres ont écopé des peines de 7 à 15 ans de prison, mais ont tout de suite fait appel. Les condamnés, arrêtés lors des événements meurtriers les 30 décembre 2013, sont des membres d'une secte évangélique que dirige Joseph Mukungubila, un pasteur de renom en RDC qui affirme parfois être le Christ. Comme ceux de Kolwezi, les adeptes de la secte avaient attaqué les mêmes jours plusieurs points stratégiques dans plusieurs provinces, comme l'aéroport de Kindu et la radio-télévision nationale à Kinshasa, où ils ont proclamé Mukungubila président élu. Il s'en est suivi des affrontements, notamment autour du domicile du pasteur à Lubumbashi, où étaient rassemblés nombre de ses adeptes et leurs enfants et les forces de l'ordre. Selon les autorités, 95 terroristes et 8 éléments des forces armées ont été tués dans les violences au Katanga. Mais la Ligue des électeurs, organisation congolaise de défense des droits de l'homme, estime que plus de 300 personnes ont péri dans la répression, dont environ 200 au domicile du pasteur. À Kinshasa, un tribunal militaire juge une vingtaine de personnes pour leur implication présumée dans les attaques de la capitale, dont M. Mukungubila lui-même, exilé en Afrique du Sud. Proche de la famille du président Joseph Kabila, Mukungubila, candidat malheureux à la présidentielle de 2006, nie toute responsabilité et qualifie des coups montés les événements du 30 décembre 2013.
La future force régionale chargée de lutter contre Boko Haram sera commandée par un Nigérian. Ainsi en ont décidé hier le Nigeria et ses voisins lors d'un sommet destiné à muscler la réponse au groupe islamiste. À cette réunion à Abuja, le nouveau président du Nigeria, Muhammadu Buhari, avait revendiqué pour son pays le commandement de cette force pour toute la durée de l'effort de guerre, au nom de l'efficacité, refusant l'idée d'un commandement tournant tous les 6 mois entre les 5 pays contributeurs de troupes. Le Cameroun prendra le poste de numéro 2 pour une durée initiale de 12 mois et un Tchadien sera nommé chef d'état-major également pour 1 an. La force d'intervention conjointe multinationale du Nigeria, du Cameroun, du Tchad, du Niger et du Bénin, qui doit compter 8700 militaires, policiers et civils, est censée être déployée d'ici au 30 juillet. La gravité du défi islamiste a été rappelée par de nouveaux raids. 43 personnes ont péri mardi dans des attaques contre 3 villages de l'état de Borno dans le nord-est du Nigeria, épicentre des violences perpétrées par Boko Haram. Nous y reviendrons dans notre segment magazine tout à l'heure.
En Côte d'Ivoire, le commandant Anselme Sekayapo, ancien chef de la sécurité rapprochée de l'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo, a plaidé non coupable hier devant le tribunal militaire d'Abidjan, qui le poursuit notamment pour meurtre, d'après l'AFP. Surnommé Seka Seka, celui qui fut un pilier de l'appareil sécuritaire du régime de l'ex-président Laurent Gbagbo, est également poursuivi pour assassinat et blanchiment d'argent aux fins d'achat d'armes. Ce sont des faits dont je n'ai pas connaissance. Je plaide non coupable, a déclaré à la barre le commandant Seka, qui était le dernier accusé entendu depuis mardi dans le procès de 9 officiers pro-Gbagbo jugés pour des exactions commises durant la crise post-électorale de 2010-2011.
D'anciens salariés congolais de la compagnie minière de Logowé, licenciés en 1992, ont demandé hier à la justice française d'ordonner leur indemnisation, selon l'AFP. La Comilog est une filiale du groupe minier français Eramet, basée au Gabon. Le soutien de l'ONG Sherpa, 857 de ses ex-salariés réclament au total quelques 60 millions d'euros d'indemnités. La décision sera rendue le 10 septembre.
Les casques bleus de nouveau accusés d'abus sexuels. Cette fois, les faits se seraient produits au Liberia et en Haïti. Les détails avec Morgane Guériec.
Le rapport interne de l'ONU indique que les soldats de maintien de la paix ont échangé de l'argent ou des fournitures contre des faveurs sexuelles de la part de centaines de femmes. À Monrovia, plus d'un quart des femmes interrogés disent avoir procédé à des transactions sexuelles avec les casques bleus de l'UNMIL, généralement pour de l'argent ou des téléphones. De même en Haïti, où des centaines de femmes ont reconnu avoir eu des relations sexuelles avec des casques bleus de la MINUSTA en échange de services ou de biens matériels tels que des chaussures, des vêtements, des téléphones, des ordinateurs portables et des parfums. Le document encore confidentiel et daté du 15 mai a été obtenu par l'AFP et doit être publié sous sa forme définitive la semaine prochaine. Ces divulgations interviennent alors que les Nations Unies ont été récemment critiquées pour leur gestion d'accusations d'agressions sexuelles contre des enfants en Centrafrique. Elles démontrent aussi que ces échanges à caractère sexuel sont répandus et pas assez dénoncés, souligne le rapport des services de contrôle interne de l'ONU.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Fonds monétaire international a jeté un froid dans les négociations entre la Grèce et ses créanciers en affirmant qu'un accord était encore loin. L'équipe de négociateurs du FMI a pour l'heure quitté Bruxelles pour regagner Washington, rapporte l'AFP. Tous les acteurs soulignent l'urgence à trouver une issue pour éviter un défaut de paiement de la Grèce qui viendrait ébranler la zone euro.
Un adolescent américain a admis devant un tribunal qu'il a essayé d'aider les militants du groupe État islamique à recruter des partisans et lever des fonds. Des précisions avec Georges Léonard.
Ali Chokrin Amin, 17 ans, a plaidé coupable jeudi à des accusations de complot en vue de fournir un soutien matériel à un groupe terroriste étranger, infraction passible d'une peine possible d'emprisonnement de 15 ans. Le département américain de la justice a déclaré qu'Amin a également admis avoir aidé un autre jeune américain à voyager en Syrie plus tôt cette année pour rejoindre les djihadistes. Selon le procureur général adjoint pour la sécurité nationale, John Carlin, l'adolescent a utilisé les médias sociaux en vue de soutenir le groupe État islamique. Les extrémistes islamistes de l'autre côté du monde tendent la main aux jeunes, dit Carlin, dans une tentative de les radicaliser, recruter et inciter à la violence. Il a appelé les parents et les dirigeants communautaires à affronter et à décourager de telles menaces. Le procureur chargé des poursuites judiciaires contre Amin Dana Bouente a déclaré aux journalistes que les autorités fédérales prennent des mesures contre ceux qui utilisent les médias sociaux comme un outil pour aider les terroristes avec autant de vigilance et d'énergie qu'elles déploient contre les Américains qui prennent les armes et se battent avec des groupes tels que l'État islamique. L'AFP cite l'avocat d'Ali Chokrin Amin, Joseph Flood, disant que le jeune de 17 ans regrette ce qu'il a fait et coopère avec les forces de l'ordre.
États-Unis toujours, deux policiers impliqués dans la mort d'un jeune Africain-Américain de 12 ans devraient être traduits en justice, c'est ce qu'a estimé hier un juge du tribunal municipal de Cleveland dans l'état de l'Ohio. Tamir Rice a été abattu en novembre alors qu'il avait en sa possession un pistolet jouet.
Et maintenant, les nouvelles économiques du jour, c'est la Minute Éco avec ce matin Claire Morin-Gébourg.
Des décideurs algériens et français ont encouragé hier les PME à investir dans les deux pays pour redynamiser les liens économiques et peser ensemble sur le marché africain. Mohamed Led Benamor, président de la Chambre algérienne de commerce et de l'industrie, a précisé que l'Algérie allait débloquer 262 milliards de dollars d'investissements publics dans les 5 prochaines années. Le Sénégal vise les 6 millions de passagers par an. Avec la mise en service dans les mois à venir de l'aéroport international de Blaise Diagne de Dias, le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Abdoulaye Diouf Sarr, s'est montré optimiste. 6 millions de passagers aujourd'hui, 10 millions à l'horizon 2035. La pêche est l'activité la plus génératrice de revenus pour les populations du sud-ouest du Cameroun, région frontalière du Nigeria. Selon les statistiques publiées hier par le ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries Animales, les recettes générées par la pêche dans cette région ont atteint les 263 milliards de francs CFA en 2014. 80% de cette production de poissons est vendue au Nigeria, selon les officiels camerounais, alors que le Cameroun importe chaque année environ 100 milliards de francs CFA de poissons.
Merci Claire. Nous passons à la page sportive, aux commandes ce matin, Timothée de Nangmaï. Bonjour Timothée.
Bonjour Jacques.
Coup d'envoi des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Orange Gabon 2017 ce soir.
Eh oui, 3 matchs au programme ce soir, Guinée-Swaziland, Maroc-Libye et Tunisie-Djibouti. Le gros des troupes suivra samedi et dimanche. Ce sont au total 51 pays répartis en 12 poules de 4 équipes et une poule de 3 équipes pour désigner les 15 sélections nationales qui participeront à la 21e CAN Orange Gabon 2017. Qualifié d'office, le pays organisateur a été intégré au groupe H, celui de la Côte d'Ivoire, de la Sierra Leone et du Soudan. C'est pour l'aider à préparer la compétition et les points ne seront pas comptabilisés.
Coupe du monde de football des moins de 20 ans en Nouvelle-Zélande. Les combinaisons des quarts de finale sont connues.
Le Brésil jouera contre le Portugal, le Mali contre l'Allemagne, les États-Unis contre la Serbie et l'Ouzbékistan contre le Sénégal. Les jeunes Ouzbeks ont créé la surprise hier en battant leurs homologues autrichiens 2-0. Également qualifié hier, l'Allemagne victorieuse du Nigeria 1-0, le Portugal qui s'est imposé face aux pays hôtes 2-1 et le Brésil qui a défait l'Uruguay au tir au but.
Autre Coupe du Monde, celle des femmes au Canada. 4 matchs au programme hier soir. La Côte d'Ivoire croisait le fer avec la Thaïlande. 2 équipes qui voulaient remettre les compteurs à zéro après leur lourde défaite en début de compétition. Malheureusement, les éléphantes ivoiriennes se sont trompées par leur défense et ont dû concéder la défaite. Score final 2-3. Pour les Thaïlandaises. Les autres résultats, 1 partout entre l'Allemagne et la Norvège. La Chine a battu les Pays-Bas par 1-0. Et le pays hôte, le Canada, a fait match nul, 0 partout face à la Nouvelle-Zélande. Team conséquence peut-être du scandale de corruption qui secoue la FIFA, la Confédération brésilienne de football a introduit hier une limitation de mandat.
Tout à fait Jacques, le président de la CBF sera désormais élu pour un mandat de 4 ans renouvelable une seule fois. La CBF, qui a pris cette décision à l'issue d'un congrès extraordinaire, a aussi décidé d'accorder un plus grand rôle au club dans la gestion du football brésilien. La pression montait depuis quelque temps pour rendre l'instance fêtière du football brésilien plus démocratique et plus transparente. À noter que le dernier président de la Confédération brésilienne, José Maria Marin, qui a été remplacé en avril dernier, fait partie des personnes détenues en Suisse en rapport avec le scandale de pot de vin de la FIFA. Avant de terminer, Jacques, la suite de la finale de la NBA. Golden State et Cleveland en étaient hier soir à leur 4e confrontation.
Oui, les Warriors de Golden State ont créé l'égalité en remportant hier soir le match numéro 4 par la marque de 103-82 face aux Cavaliers de Cleveland.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Voilà donc pour le journal. Vous êtes toujours branché sur la VOA émetteur de Washington. Jacques Aristide dans votre compagnie. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui. C'est l'heure maintenant d'entamer la tranche magazine. Cap d'emblée sur la République démocratique du Congo où les consultations en vue d'un dialogue politique continuent. Le président Joseph Kabila s'est notamment entretenu hier jeudi avec les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques accrédités en RDC, de même qu'avec des gouverneurs de province. Un survol des entretiens d'hier avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre radio partenaire à Kinshasa.
Premier à être reçu ce jeudi 11 juin 2015, les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques accrédités au Congo démocratique. Jean-Michel Dumont est le chef de la délégation de l'Union européenne en RDC.
Nous sommes en faveur du dialogue pour trouver une solution aux problèmes concrets qui se posent. Nous les connaissons, ils ont été cités, le calendrier, le fichier, le budget. Le président nous a demandé de jouer un rôle positif et nous avons répondu que nous sommes prêts en tant qu'Union européenne à jouer un rôle positif pour des élections qui soient libres, transparentes, démocratiques, tenues selon les échéances constitutionnelles et dans un climat politique apaisé et que l'Union européenne est prête à apporter son appui au processus électoral.
Cette volonté de la communauté internationale d'accompagner le processus électoral a également été rappelée par Martin Kobler. Mais le chef de la mission de l'ONU en République démocratique du Congo souligne tout de même que certains préalables devraient être réunis.
Nous sommes tout à fait prêts d'accorder le plein soutien de la communauté internationale pour les élections. Mais c'est basé naturellement, c'est connu, sur les principes de la résolution des Nations Unies. Et ici, je veux un consensus d'effectuer les élections libres, paisibles et crédibles ici. Donner l'espace à l'opposition. La constitution devrait être respectée et aussi le calendrier électoral doit être gardé menant jusqu'au novembre 2016 les élections présidentielles et législatives. Et j'ai assuré le président du rôle positif de la MONUSCO, du rôle positif aussi de la communauté internationale en ce qui concerne les sujets qui doivent être résolus rapidement.
Ces consultations sont à ce jour toujours boudées par les principaux partis politiques et regroupements de l'opposition. Le député national Christian Badibangi, président de l'Union des socialistes congolais, en a profité pour demander au chef de l'État de fournir encore plus d'efforts afin de ramener les indécis, comme il les appelle, à la table des négociations.
Nous avons dit, nous soutenons les dialogues. Nous avons demandé au chef de l'État d'élargir encore sa main pour que les indécis et les hésitants viennent au nom du Congo pour sauver notre pays.
Au gouverneur des provinces reçu par la suite, il a été demandé d'élargir ses consultations dans leurs juridictions respectives. Julien Paluku, le gouverneur du Nord Kivu, est leur porte-parole.
Le chef de l'État nous a chargé une mission essentielle, celle d'étendre cet exercice en province, en tant que ses représentants, pour que nous allions consulter toutes les couches en province.
Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
La crise politique qui frappe le Burundi est aussi dramatique pour les consommateurs que pour les commerçants. L'économie déjà chancelante montre de très sérieux signes d'essoufflement dans un pays considéré comme l'un des plus pauvres de la planète. Le taux de chômage ne cesse de monter, tout comme les prix des produits de première nécessité. Et cet état de choses risque d'empirer car les agences d'aide internationale menacent désormais de se retirer. Idrissa Sedoudia nous en dit davantage.
Selon l'envoyé spécial de la Voix de l'Amérique à Bujumbura, Emily Yob, les activités en magasin d'entreposage de riz dans la capitale ont été subitement arrêtées il y a quelques semaines. Les policiers ayant accusé son gérant de vendre du riz aux manifestants, un employé qui a requis l'anonymat. Ce travailleur explique qu'il chargeait le riz pour les clients et pouvait ainsi se faire entre 2 et 5 dollars par jour. Mais c'est très, très difficile ces jours-ci, dit-il, et il va probablement rentrer à la maison les mains vides. La fermeture de l'entrepôt affecte tout le monde, poursuit-il, travailleurs et marchands. Toutes les vies sont affectées à cause de ça. Le Burundi, pour rappel, fait face à la crise politique la plus sérieuse qu'il ait connue depuis la fin de la guerre civile il y a une décennie. Des manifestations violentes ont suivi l'annonce de la candidature du président Pierre Nkurunziza en troisième mandat. Trois semaines de protestations ont inévitablement eu un impact profond sur la fragile économie de l'un des pays les plus pauvres du monde. Certains magasins et commerces ont dû suspendre leurs activités à cause de l'insécurité. Des barrages routiers empêchent le transport de produits de base tels que le riz, affirme Estelle, vendeuse au marché de Bujumbura. Estelle explique que le riz tanzanien a augmenté et qu'il est devenu plus difficile de l'obtenir parce que les fournisseurs ont peur de le transporter à cause des barricades et de l'insécurité. Plus de la moitié de la population burundaise souffre de malnutrition et la dernière hausse des prix des produits alimentaires n'a fait qu'accentuer les pressions, estime Michael, qui tente désespérément d'acheter un panier de vivres au marché. Michael dit que les prix de toutes les denrées ont augmenté. Un kilo de viande lui coûtait avant 2 dollars environ, maintenant il doit payer presque 3 dollars. Idem, dit-il, pour le riz et les tomates. C'est un luxe que les gens ne peuvent pas se permettre, explique-t-il. Pour certains analystes, la fin de la crise politique ne signifierait pas nécessairement la fin de la crise économique, particulièrement si M. Nkurunziza venait à être réélu. La moitié du budget du Burundi vient de l'aide extérieure et l'un des principaux donateurs du pays, la Belgique, a déjà menacé de suspendre son assistance si M. Nkurunziza se cramponnait au pouvoir.
Nous vous le disions un peu plus tôt, le Nigeria et ses voisins du Tchad, du Niger, du Bénin et du Cameroun ont créé une force d'intervention conjointe multinationale pour lutter contre le groupe nigérian Boko Haram. C'était à l'issue d'une réunion hier à Abuja. Cette force militaire sera placée sous commandement nigérian, une concession faite au nouveau président nigérian Muhammadu Buhari. Pour une analyse, Jean-Roger Billon, adjoint à Paris, Antoine Glaser, journaliste, écrivain, spécialiste des questions africaines.
Ils veulent toujours avoir la direction, la coordination, le commandement. Et là, on voit qu'il y a une répartition des tâches, en particulier avec le Tchad, à partir du moment où l'état-major de la force régionale sera N'Djamena, mais avec un général qui sera un général nigérian. C'est une façon de se coordonner. Mais tout ça, ça se fait au niveau des chefs, en particulier des présidents, et ensuite des chefs d'état-major et autres. Mais est-ce qu'au niveau de la troupe, est-ce que ça va suivre? Ça, on ne sait absolument pas comment les choses vont se coordonner.
Les pays contributeurs avaient souhaité une force dont le commandement est tournant, mais le président nigérien est resté inflexible. Pourquoi, selon vous?
Il y a toujours eu cette attitude du Nigeria anglophone avec 180 millions d'habitants vis-à-vis des petits frères francophones. Buhari, au niveau national, dans un pays aussi nationaliste que le Nigeria, considère qu'ils n'ont pas à recevoir d'ordre, de commandement, de quoi que ce soit des pays voisins. Mais encore une fois, le fait d'avoir accepté que l'état-major soit quand même à N'Djamena, c'est aussi, à mon avis, faire un clin d'œil, ou en tout cas au Tchad, pour remercier le Tchad quand même est intervenu le premier contre Boko Haram dans la région, et puis aussi sans doute un clin d'œil à la France qui va sans doute assurer une logistique à partir de N'Djamena, puisque c'est là où l'état-major français de toute l'opération Barkhane dans le Sahel est au Tchad, et donc c'est aussi, à mon avis, président Buhari, ça lui permettra d'avoir quand même un soutien sur le plan occidental.
Le Tchad, disons, c'est plein du manque de coordination quand le Nigeria dirige les opérations. Qu'est-ce que vous en dites?
Le Tchad, c'est toujours plein le fait qu'il n'y ait jamais eu de coordination avec le Nigeria, mais ça, c'était surtout du temps de Goodluck Jonathan. Je pense que là, ils se rendent bien compte qu'il y a quand même, sans faire de mauvais jeu de mots, il y a quand même le feu au lac. Le véritable danger, c'est vraiment toutes les îles du lac Tchad qui sont complètement incontrôlées. On a vu comment même les populations du Niger ont fui et le véritable enjeu, c'est que Boko Haram finalement s'installe au cœur du lac et à ce moment-là, il sera très difficile avec des populations parce que s'il y a le véritable enjeu économique, c'est quand même le lac Tchad pour l'ensemble des éleveurs. guerre. Et c'est vrai que ça échappe à tous les pays. Alors là, à ce moment-là, c'est pas simplement le Nigeria. Le Nigeria sait très bien que c'est quand même plus du côté du Tchad. Et le problème, ça sera vraiment le problème du Tchad. Et on voit pas comment même le Nigeria peut refuser au Tchad de se coordonner, en tout cas sur la lutte contre Boko Haram. Là, c'est vraiment son territoire.
Le journaliste Antoine Glaser, qui vient de publier Africa France, quand les dirigeants africains deviennent maîtres du jeu.
La Voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24, à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena.
Il y a quelque 2,5 millions d'enfants sans abri, ici même aux États-Unis. On les trouve dans toutes les parties du pays, dont le comté de Loudoun, dans la banlieue de Washington. Plus de 1000 enfants sans abri et leurs familles y vivent. Et pourtant, ce comté est l'un des plus riches de la nation. Une ONG à but non lucratif s'active sur le terrain pour leur venir en aide, comme nous le dit Michel Joseph.
Il s'agit de Mobile Hope. Un de ces bus arrive dans le parking d'un grand centre commercial de la région où l'attendaient déjà les enfants et leurs parents. Dans le bus, des sacs de denrées alimentaires, effets de toilette, fournitures scolaires, livres et jouets. Rien que des dons distribués gratuitement aux familles. Donna Fortier a fondé Mobile Hope il y a 4 ans.
I couldn't sleep at night knowing that there were kids in our community that were struggling or
Je ne pouvais pas dormir la nuit en pensant à ces enfants en difficulté au sein de notre communauté, sans abri ou hébergés de manière précaire. C'est ainsi que Donna a démissionné de son poste de directrice des affaires communautaires dans un grand hôpital local pour pouvoir se consacrer exclusivement à ses enfants. C'était effrayant parce que je paie ses études universitaires à ma fille et j'ai mon fils au lycée. J'avais très peur, mais avec le recul du temps, c'est la plus grande leçon d'humilité que j'ai jamais eue. Son ancien employeur lui a fait cadeau du bus qui était utilisé auparavant pour aller donner des soins aux gens. Nous amenons notre unité mobile tous les mercredis soirs dans différentes parties de notre comté et des services sont fournis à une moyenne de 50 à 90 enfants. Amparo Diaz est venue avec sa petite sœur. Nous avons été informés par nos amis. Ils nous ont dit de venir ici. Nous étions là pour Noël et ils nous ont donné des cadeaux et de la nourriture aussi. C'était très généreux de leur part. Certains parents ne parlent pas anglais. Pas de problème, Mobile Hope a des interprètes.
08, so it's December 8th.
Rhonda, une bénévole, offre ses services 3 jours sur 5. Je pense que c'est utile parce qu'on peut voir que certains des enfants ont meilleure mine, qu'ils semblent en meilleure santé. Donna Fortier envisage maintenant de trouver un endroit où elle pourra construire pour héberger de jeunes adultes et leur apprendre comment se débrouiller dans la vie. Son espoir est de voir l'expérience Mobile Hope élargie à d'autres villes pour aider davantage d'enfants à devenir des membres productifs de la société.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, African Music, les anciens et nouveaux morceaux de la musique africaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, La Voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
Evariste Bouchab, Bifort Yassara, Guima Georges,
Bonsalé, Lana et Sangola Yamawa,
et les Corses.
voilà quelques petites notes musicales pour prendre congé de vous. Et bien, point final à ce numéro matinal du Monde. Aujourd'hui, en ce vendredi 12 juin, Anne Albertson a dirigé la mise en onde, à la technique El Zoubir El Tayeb, au micro Jacques Aristide depuis Washington. Nous vous souhaitons un excellent week-end à l'écoute de VOA Afrique. À très bientôt. Take care.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.